Vous écoutez
RMC.
RMC.
On essaye d'avoir plusieurs flèches à notre arc ou plusieurs cordes, je sais pas comment, mais voilà, on essaye d'avoir plusieurs armes.
On a plusieurs flèches à notre arc, comme on dit.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
C'est l'afterfoot, Nicolas Villas.
Il est 20h, vous êtes sur RMC, on est ensemble comme chaque soir jusqu'à minuit. C'est le nouveau créneau pour cette nouvelle saison pour les drôles de dames de 20-22. Ce sera comme ça tous les lundis. Johan Crochet, Julien Laurence, Fred Hermel, Paulo Breitner seront avec nous dans quelques instants. Et à partir de 22h, Gilbert Bribois sera là. Salut Gilbert.
Salut les gars.
Avec Thibault Leplat, avec Walid Acharchou.
Donc nouvelles habitudes le lundi.
Ouais.
2 heures de foot européen.
Exactement.
Plus que d'habitude.
Une demi-heure
de plus.
Exactement.
Pourquoi? Parce que le drôle de dames sont d'un niveau extraordinaire.
Toujours.
C'est les meilleurs. Bah, excusez-moi, dis-moi où il y a mieux.
Je sais pas. Non, il n'y a pas.
Nulle part.
Il n'y a pas.
On a les meilleurs.
Il n'y a pas. Il y aura quoi au menu à partir de 22h?
Donc 20h, 22h tous les lundis désormais, le foot européen et la Ligue 1 de 22h à minuit. Donc Ligue 1 tout à l'heure à 22h pour parler bien sûr du feuilleton PSG qui continue toujours, hein, même quand on gagne, qu'on explose l'adversaire, il y a toujours des problèmes. Il y a encore des problèmes et des réunions et des égos qui ne peuvent pas se supporter. Donc on vous racontera les coulisses du week-end de Mbappé et de Neymar. Plus les avis de Thibault Leplat et Walid Acharchou sur la question. Et puis l'OM, parce que là aussi, il y a un petit feuilleton. Payet, on en sait plus sur les raisons qui poussent Tudor à le mettre sur le banc. Ce sera à 23h tout à l'heure, sans oublier le mercato et le petit bilan du week-end habituel en Ligue 1.
Merci Gilbert. Donc il sera avec Thibault Leplat et avec Walid Acharchou à partir de 22h. Avant d'accueillir nos drôles de dames, on fait un petit détour par le championnat d'Europe de natation, le 4 x 100 mètres nage libre qui vient de se terminer. Julien Richard, avec des Français notamment.
Tu mets la vie de Fred Hermel là-dessus, lui demande pas.
Hein. Salut Julien.
Salut, avec là aussi des drôles de dames qui ont terminé ce relais 4 x 100 mètres nage libre mixte. Alors il y avait deux garçons au départ, deux filles à la fin, Maxime Grousset, Charles Rioux, Charlotte Bonnet et Marie Wattel, champion d'Europe du relais 4 x 100 mètres nage libre mixte. C'est une super performance hein, des Français et une belle façon de conclure cet après-midi. Deuxième médaille de l'après-midi d'ailleurs pour Marie Wattel qui avait décroché l'argent sur le 100 mètres papillon. C'est une petite déception, mais là ça se termine avec le sourire donc pour Maxime Grousset, Charles Rioux, Charlotte Bonnet et Marie Wattel. 8e médaille de l'équipe de France dans ces championnats d'Europe et la 3e en or ici à Rome.
Merci beaucoup Julien, et c'est donc parti avec nos drôles de dames. Johan Crochet, Julien Laurence, Fred Hermel, Paulo Breitner, bonsoir messieurs, salut tout le monde.
Salut tout le monde.
On commence mal la saison.
Ah bon, pourquoi?
Ouais, moi,
on commence mal.
C'est quoi la natation que t'aimes pas?
Alors la question c'est que je sais pas nager. Mais bon, j'aime beaucoup la natation, mais je sais pas nager. Non, c'est que je pense qu'au moins l'an dernier, on avait pris une bonne habitude. C'était une présentation particulière de chacune des drôles de dames.
Ouais.
Et là, c'est un peu jeté en pâture comme ça. Alors qu'on a deux belles grosses heures là.
Parce qu'on a perdu un peu de temps sur le début. Voilà, on change un peu les habitudes. C'est bien aussi. Voilà, c'est pas mal.
Déçu, bah. Hola chicos. On retrouve Fred Hermel. Hola chicos.
Ah, voilà. Ça vous va ou pas là?
Tout me va, moi.
Lui, tout l'eau.
T'as fait que pas facile.
Ça va, mon polo?
Gilbert nous a piqué 5 minutes.
Ah, bah, non, c'est pas Gilbert, c'est la natation. C'est pourquoi Gilbert?
Bah, parce qu'avec sa présentation, on s'en fiche du PSG, nous.
Bah, mais là, on a inversé. C'est-à-dire que d'habitude, voilà, c'était l'inverse. C'est moi qui venais lui bouffer 5 minutes. Maintenant, ça va être comme ça le lundi soir.
Voilà.
Ouais. Aïe. Maintenant, ça va être comme
ça. Ouais, mais on a 2 heures, c'est
1h55.
Voilà, exactement. Tiens, un petit mot également, parce que ça joue également en ce moment. Ça joue en Italie. Il reste 20 minutes à jouer entre l'Hellas Vérone et le Napoli. 4-2 pour le Napoli. On y reviendra tout à l'heure. Et puis l'Atlético, après une demi-heure de jeu, mène 1-0 sur la pelouse de Retafe.
Le mini derby madrilène avec but de Morata. On va en parler, Johan. Hein. Morata, est-ce que la Juve va vouloir récupérer?
Ils aimeraient bien le récupérer, mais aux conditions de l'Atlético, ils n'ont pas trop envie de le récupérer, donc il y a peu de chances.
Trop cher.
Ouais. En fait, ils avaient une option d'achat, la Juve, en fin de saison. Ils n'ont pas voulu la payer, ils essayent de renégocier à la baisse. Mais là, il est redevenu important, on l'a vu lors du dernier match Juve-Atlético,
Après, c'est un bon joueur. Moi, je ne l'aime pas trop, mais c'est un bon joueur. Donc, voilà, et...
C'est pas un grand buteur, mais c'est un bon
joueur. C'est un bon joueur, oui. Et ça sera sûrement le but. Enfin, il va aller au mondial et tout ça, donc il a peut-être pas envie non plus lui de s'embêter alors qu'il y a un mondial dans quelques semaines. Hein, voilà, parce que là on en est à quelques semaines, quoi. Donc il est bien à l'Atlético et on espère qu'il va y rester.
Et Griezmann est sur le banc. Hein.
Oui, alors Griezmann, il est pas mal. Hein. Il n'a pas été mal dans les matchs de préparation de cet été. Griezmann, qui est toujours prêté par le Barça. Attention, hein, parce que ah ouais. C'était, oui, il est toujours prêté. Et puis il a été inscrit par l'Atlético auprès de la Liga comme joueur prêté. C'est-à-dire qu'il appartient toujours au Barça. Et c'était une saison très très mauvaise de Griezmann pour son retour l'année dernière. Donc là,
il y a même des rumeurs de départ. Là, il se dit, je disais ça tout à l'heure. Il y a une rumeur comme quoi si Isak part de la Real Sociedad à Newcastle, Griezmann pourrait retourner à Saint-Sébastien.
Et comment ils font pour payer le salaire de Griezmann qui est à 17 millions net après un peu par an. Enfin, ça me paraît. Alors, j'imagine qu'à la Real Sociedad, il serait ravi de retrouver un joueur qui en plus est bien meilleur que celui qui est parti. Il est passé entre les mains de Simeone, les champions du monde depuis. Mais ça me paraît très compliqué. Griezmann fasse un effort financier en toute fin de carrière pour peut-être repartir dans le club qu'il a formé, pourquoi pas. Mais il a encore, grâce à Dieu, et on l'espère pour lui, quelques belles années au très très haut niveau.
Alors les gars, on va débuter par l'un des chocs du week-end. Chelsea-Tottenham, 2-2 que vous avez peut-être vécu ce week-end également. Mon cher Julien Laurence, duel très attendu. On va y revenir d'ailleurs, qui a été très tendu également. Match spectaculaire, hein, cette Battle of the Bridge.
Ouais, Battle of the Bridge numéro 2, parce qu'on se rappelle bien sûr que lors de la saison où Leicester est champion, juste avant la fin de saison justement, d'ailleurs c'est ce match-là qui donne le titre à Leicester, puisque Chelsea avait fait 2-2 avec Tottenham et avait empêché Tottenham de pouvoir être champion ou de continuer en tout cas à rivaliser avec le Leicester de N'Golo Kanté et de Riyad Mahrez. Et donc ça avait été la première bataille du Bridge, et c'est vrai qu'hier on a eu la deuxième bataille avec ces trois embrouilles magnifiques entre Kanté et tout. C'est vrai qu'on a vu déjà une très belle équipe de Chelsea, il faut le dire, une équipe qui méritait de gagner, même Harry Kane lui-même l'a dit après la rencontre, qui méritait même pas un point Tottenham. Et c'est vrai que Chelsea a très bien joué, a très bien pressé, il y avait cette défense assez hybride entre une défense à 4, une défense à 3, avec le placement de Rich James avec ou sans ballon. On a vu un Mason Mount, et tactiquement je pense que Tourelle a vraiment gagné cette bataille tactique avec un Mason Mount assez libre qui finalement aurait dû être trouvé plus, aurait pu avoir encore plus d'impact sur la rencontre. Des occasions que Chelsea n'a pas su saisir non plus, n'a pas su prendre. Et puis ils ont encaissé deux buts entachés d'une faute sur les deux actions finalement à la base au départ pour Tottenham, que l'arbitre n'a pas donné, ce qui a rendu fou Tourelle et qui a aussi, je pense, ce qui est une des raisons pour lesquelles il y a eu ces embrouilles entre Tourelle et Conte. Mais c'est vrai que c'était assez beau à voir. Intéressant de voir aussi ce que Conte a fait avec Richarlison en début de seconde période, quand il a fait entrer pour passer en gros dans un 4-4-2, ce qui a beaucoup gêné aussi Chelsea, malgré l'ajustement tactique de Tourelle à ce moment-là aussi avec l'entrée d'Azpilicueta. Donc c'était vraiment très très intéressant tactiquement. Et puis bien sûr dans le scénario, tout ce qu'on a vu, c'était le 30e anniversaire de la Première Ligue, et c'est vrai que c'était très très beau à voir.
Alors il faut qu'on y revienne quand même sur cette altercation entre Tourelle et Conte, parce que ça fait le tour du monde. Alors c'est assez dingue, et en moment du coup de sifflet final, les deux vont pour serrer la main, Tourelle retient le bras de Conte, vous avez l'image hein, sur rmcsport.fr. Derrière, Conte en remet une couche, il balance sur Instagram, heureusement que je ne t'ai pas vu, sinon je t'aurais fait tomber et ça aurait été bien mérité, parce qu'on voit une image de Conte qui ne voit pas Tourelle courir vers lui au moment de lui serrer la main justement. Tout à l'heure Tourelle, il a un peu désamorcé la chose en conférence de presse, enfin il a un côté un peu skiz hein, Tourelle, hein. Il était tout sourire, en mode bon c'est pas grave, c'est marrant, c'est comme quand deux joueurs se prennent la tête, finalement c'est pas très grave. La fédé anglaise a ouvert une enquête quand même à l'encontre de Thomas Tourelle, enfin c'est fou cette histoire Julien là.
Ouais, c'est vrai. Alors il y a eu trois embrouilles, hein, trois clashs en fait après l'égalisation de la première égalisation de Tottenham, puisque c'est vrai qu'il y a eu une faute de Bentancur sur Hoiberg tout au départ de l'action, 45 secondes avant le but, mais quand même c'est vrai, ce qui a rendu fou Tourelle. Et donc là il y a une première embrouille entre les deux par rapport à la célébration de Conte qui se retourne vers Tourelle et vers le banc de Chelsea. Ça c'est le premier acte. Le deuxième acte, bien sûr, c'est cette course effrénée de Tourelle sur le deuxième but de Chelsea. Donc quand ils reprennent l'avantage à 2-1, où ils sprintent le long de la ligne de touche. Comme le grand José Mourinho d'Old Trafford avec Porto contre United en Ligue des Champions en 8e de finale retour. Donc ça a aussi bien énervé Conte, d'où la photo sur Instagram où il dit si je t'avais vu là, je t'aurais fait un croche-pied pour que tu tombes, tu l'aurais bien mérité. Et puis bien sûr le troisième clash, c'est celui de la fin de match, le but de Kane à la 96e, avec donc entaché lui-même d'une faute avant sur où Romero tire les cheveux de Cucurella, les cheveux longs bouclés de Cucurella pour le faire tomber, que l'arbitre ne voit pas. Et c'est vrai effectivement, ça a rendu fou Tourelle une première fois. Après il y a eu la poignée de main, ils ont été exclus tous les deux, donc ils seront suspendus pour le prochain match. Et puis c'est vrai que Tourelle a été très virulent envers l'arbitre, ce qui lui vaudra à mon avis donc l'enquête de la fédération et donc un autre match de suspension.
Si tu permets Julien, parce que j'entendais Nico qui disait qui citait Tourelle en disant c'est comme quand deux joueurs se chauffent, etc. Je suis désolé, c'est pas pareil pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il n'y a pas de contact, physique entre les entraîneurs. Les joueurs, par nature, le football est un sport de contact. Il y a des contacts physiques avec les joueurs, donc ils peuvent expliquer parfois la nervosité. Ensuite, le joueur, il est dans la compétition. Le joueur, lui, il a le droit d'avoir le cœur qui bat 250 parce qu'il est dans, le truc. Et on sait très bien que c'est très dur d'être entraîneur. Voilà. Après, le joueur, il est jeune. Les entraîneurs, ils sont plus jeunes parce que je sais pas quel âge a Conte, mais il a quoi, 52, 53, non, Conte?
Un peu moins de mémoire, mais
enfin, il est comme nous. Enfin, en tout cas, comme moi, il a passé un demi-siècle de vie. Tourol, il a
53 ans.
53 ans, voilà. De Conte et Tourol, il a un peu moins. C'est ça, non?
48.
Ouais. Voilà. Donc, ce sont quand même des adultes. Voilà. C'est pas comme des joueurs de 25 ans qui sont en train de stacler sur un terrain. Donc, pour moi, cette excuse-là, elle n'est pas valable. Je sais pas ce qu'en pensent les copains, mais
non. En fait,
il y a un exemple à donner. De la part des entraîneurs.
On dit souvent ça de la part des joueurs également.
Ouais,
plus les entraîneurs.
Je suis d'accord avec Fred sur le fait que c'est pas pareil. Après, sur l'exemple, en fait, t'es toujours l'exemple de quelqu'un ou pour quelqu'un. Ouais. Ça, c'est un peu difficile. Sur le fait, quand même, que les entraîneurs, c'est un métier très compliqué et pris dans l'adrénaline, je comprends qu'il y ait des pulsations parfois comme ça ou des réactions un peu incontrôlées. C'est un peu malheureux. Moi, ce qui me gêne plus, c'est ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, à la fin du coup de sifflet final, là où normalement, c'est quand. T'es censé un peu retomber un petit peu.
Les joueurs, ça retombe en général.
Ouais, voilà, exactement. Là, il y a l'histoire de la poignée de main, etc. Puis alors, on en parle du message de Conte sur Instagram, ouais. Mais il a quel âge? C'est quel degré de maturité? Après, il va demander à ses joueurs d'être vigilants sur les réseaux sociaux et de pas mettre de trucs sur les arbitres ou sur les adversaires, etc. Ouais. Lui, il dit quand même, je t'aurais fait une gambetta, un croche-pied, je t'aurais mis par terre. Mais c'est quoi cet exemple-là, en fait?
Et tu l'aurais bien mérité. Après, mais les emojis qui rigolent aussi, je pense que c'était
plus sur la plaisanterie. C'est pas un message que tu peux mettre quand t'es entraîneur.
Polo, vas-y. Le football modèle, etc., ça me fait toujours rigoler, mais c'est pas grave. La deuxième.
Je ne suis pas modèle de la société.
Le problème, c'est que c'est autoproclamé.
Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le football.
Non, mais je ne vois pas d'où ça vient. Depuis une dizaine d'années, le football professionnel, on a des valeurs pour le monde entier, pour ceci. Je ne sais pas d'où ça vient.
Je te dis, moi, le modèle, c'est-à-dire, l'entraîneur, il est celui qui dirige les joueurs. Donc c'est lui qui donne des ordres et des conseils à ses joueurs. S'il se comporte mal, il tient plus son vestiaire.
Moi, la seule chose qui me fait rigoler aussi, c'est que quand on voit la sévérité du football anglais, les années passées, je pense à un certain Arsène Wenger par exemple, qui était pourtant considéré comme un gentleman sur le terrain, à ma connaissance, mon cher Julien. Je pense que Conte, son tweet et le comportement de Thomas Tuchel risquent d'être sanctionnés d'une façon dramatique pour les deux clubs. Je sais pas ce que.
Après, Wenger a eu déjà une embrouille avec Mourinho par exemple, sur le banc.
C'est pour ça que je parle. C'est-à-dire Ferguson, c'est pareil. C'est-à-dire que en fait, le problème, enfin le paradoxe de la Première Ligue, je trouve, c'est qu'on cherche à faire un spectacle, y compris dans ces dérives, et on peut considérer que la prise de la c'est très intéressant. Moi, la seule chose qui m'a un peu choqué entre guillemets, c'est la prise de main entre Conte et Tourelle. Le fait qu'il chauffe pendant le match, j'en ai rien à faire. Mais c'est que quand on connaît comment les Anglais sanctionnent ce genre de comportement a posteriori, dans un côté, mais c'est pas, vous êtes pas fair play, alors qu'ils sont contents, parce que ça se trouve, ça fait de l'audience. Je pense qu'ils risquent de prendre très cher, mais je parle sous le contrôle de Julien.
Oui, non, je sais pas s'ils vont prendre très cher. Ils prendront un match, ça c'est sûr, peut-être deux. Et encore, il n'y a pas non plus de. Voilà, ils étaient face à face, ça a un peu crié, ça s'est un peu. Il y a eu quelques rassemblements, on va dire, entre guillemets, mais c'était pas. Je sais pas si ça ira beaucoup plus loin que ça. Après, que je pense que Conte finalement l'a bien résumé dans l'après-match quand il a dit moi je suis pas passif à une agression, je réponds par une agression. Si on est agressif contre moi, je serai agressif envers la personne. Et donc c'est comme ça aussi qu'il a réagi par rapport à Tuchel. Lui a considéré que c'était Tuchel qui avait commencé. Là encore, on est un peu dans la cour d'école quand même. Tuchel a trouvé que c'était l'inverse. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'étais tout à l'heure avec Mathieu Bodmerd chez Rotten avant. Mathieu lui trouvait ça bien. Trouve que quand t'es joueur sur le terrain, de voir ton entraîneur qui est comme ça. Qui vit le match à fond, c'est pas une mauvaise chose. Je pense qu'on a chacun notre avis. Moi, ça m'a pas dérangé. Moi, j'adore quand il y a des embrouilles comme ça. Ça a chauffé le public, on l'a bien vu. Ça a donné encore plus de dramaturge à la rencontre, encore plus de tension. Pour moi, ça m'a pas dérangé du tout.
Julien, Cavani, tu sais, quand il avait fait son message en citant un mot en espagnol, negrito, il avait pris combien de matchs?
3 matchs, je crois, peut-être 4 matchs. Peut-être c'était 4 matchs.
Pour un truc dans sa langue sur Instagram. Et là, qui avait tout à fait innocent et tout à fait compréhensible dans la culture de l'espagnol en Amérique latine. Donc leur comportement de ces entraîneurs, ils vont prendre peut-être un match ou deux, d'ailleurs moins que Cavani pour un truc sur Instagram. Qui était totalement.
Après, attention, on ne sait pas. Hein, peut-être que la Fédé anglaise va encore se saisir de l'histoire. Hein, c'est tout frais encore. Hein. On poursuit le débat dans quelques instants. Juste avant, petit détour, Morgane Maury. Il y a l'Omnium, le championnat d'Europe de vélo sur piste. Explique-nous d'ailleurs, Morgane, ce que c'est que l'Omnium.
Ah, c'est bien.
Il y a une médaille d'or pour la France.
Oui, il y a une médaille d'or pour Donavan Grondin. C'est quatre épreuves dans la même journée, des épreuves longue distance, une épreuve scratch et une course en ligne. Après, vous avez l'épreuve tempo où chaque tour, il y a des points marqué. Ensuite, l'épreuve à élimination, le dernier de chaque tour est éliminé. Et enfin, la course au point, tous les 5 tours, tous les 10 tours, il y a des points marqués sur un sprint. Ils étaient 3 cyclistes à égalité avant le dernier tour avec le même nombre de points, 144 points. Donavan Grondin est allé chercher la deuxième place du dernier sprint pour devancer un Italien et un Espagnol et être sacré champion d'Europe de l'Omnium. C'est le 5e titre européen pour la piste française dans ces championnats d'Europe. Une très belle soirée. Melvin Landerneau avait remporter l'or sur le kilomètre, Clara Copponi l'argent sur l'omnium féminin, Mathilde Gros sur l'argent sur la vitesse féminine, et maintenant pour terminer l'or pour ce garçon Donavan Grondin sur l'omnium masculin. Il va revêtir dans un instant le maillot de champion d'Europe avec les étoiles.
Merci beaucoup. Ouais,
il faut dire, et Morgane s'il est encore avec nous, la technicité du cyclisme sur piste, c'est un truc de fou. Les gens se rendent pas compte en fait.
Je pense qu'il a jamais fait de vélo, Morgane. C'est une arnaque totale. Hein. Le mec, il commente le truc, mais il sait pas. Hein.
Mais il commente ça comme
c'est comme Julien Richard, donc c'est pas très bien. Comme toi.
Franchement, c'est ce que je dis. C'est... Non, mais est-ce que Morgane, il est d'accord avec moi que c'est hyper technique. Tactiquement, c'est hallucinant. Moi, j'adore le cyclisme sur piste.
Ah ouais.
Ah non, mais moi, j'adore ça. Vraiment. Hein.
Moi, j'adore le foot. Et tu sais quoi, le Napoli mène 6-2 maintenant face à l'Hellas Vérone. Il reste 5 minutes à jouer entre l'Hellas Vérone et le Napoli. Toujours 1-0 pour l'Atlético. Face à Getafe. On approche de la mi-temps. Dans quelques instants, on revient avec les drôles de dames. Et on va poursuivre, tiens, sur la thématique des tensions dans les championnats. Yohann, tu vas nous expliquer que c'était pas mal tendu pour la presse de la Serie A également. À tout de suite dans la
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
20h17, vous êtes sur RMC avec les Drôles de Dames. C'est le nouvel horaire des Drôles de Dames. Ce sera maintenant tous les lundis de 20h à 22h. On est avec Johan Crochet, Julien Laurence, Fred Hermel, Paulo Breitner. On évoquait le moment de tension entre Thomas Tuchel et Conte lors du Chelsea-Tottenham, le 2-2 de ce week-end. Il y avait la reprise de la Serie A. On va rentrer dans le côté sportif dans quelques instants. Mais Johan, avant ça, toi aussi, t'as remarqué que la reprise était particulièrement tendue en Italie.
Ouais, sur les 8 matchs de samedi-dimanche, je trouve qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de tension à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a des entraîneurs qui sont très nerveux, on a des joueurs qui se prennent la tête avec des attroupements entre eux, avec des provocations, avec des paroles, des insultes, etc. On a des joueurs aussi que je trouve très durs, très agressifs sur le terrain. J'ai vu des tacles franchement très peu maîtrisés pour une première journée. Je trouve que ça s'énerve très très rapidement et moi je me demande si c'est pas lié aussi à la pression, alors médiatique, mais pas seulement médiatique, parce que dans les clubs, on met la pression aussi aux joueurs et aux entraîneurs sur faut surtout pas se rater en début de saison, parce qu'il y a toujours ce discours qui revient depuis quelques temps en disant attention, cette saison elle est particulière, il y a deux saisons en une, il y a avant la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde, en gros, personne ne sait ce qui peut se passer en termes physiques, en termes de comment on va récupérer les joueurs de la Coupe du Monde, etc. Donc tout le monde insiste bien sur le fait de prendre des points très rapidement, etc. Et je me demande si ça joue pas un peu sur eux en ajoutant une dose peut-être trop importante de motivation, de tension, de nervosité, etc., qui rejaillit sur le terrain. Moi, j'étais très étonné, j'ai vu les 8 matchs de samedi dimanche, j'ai vu des scènes sur les 8 matchs qui sont pas normales. L'arbitre de Lazio Bologne, il a Patric, il a Immobile, il a Zari qui sont à 30 cm de son visage, en train de dire cazzo, etc., en train de le monter du doigt, en train de hurler après lui, etc. Et je me dis que c'est pas normal. En plus, dans la semaine, on a vu le désignateur des arbitres en Italie, Rocchi, et un des arbitres, Doveri, qui avait fait 2 interviews, dont un au Corriere dello Sport, en disant on va être très sévère cette année, les attroupements auprès des arbitres, c'est terminé, etc. Bon, bah, visiblement, les consignes sont pas passées parce que ce que j'ai vu ce week-end, c'est vraiment pas normal.
Ouais, ça, journée, suivre, ça va être intéressant à suivre, ça, effectivement, ce que dit Johan, avec cette saison particulière, cette Coupe du Monde qui tronque la saison en deux.
Mais ça sera intéressant d'observer, par exemple, des joueurs qui sont en balance pour entrer dans la liste.
Parce qu'ils sont nerveux.
Bah, c'est-à-dire que quand t'es sûr de jouer la Coupe du Monde, tu vas gérer ton physique, etc. Mais, donc, automatiquement, cette début de saison va être marqué par la Coupe du Monde. Je veux dire, c'est évident. Mais ceux qui sont les joueurs qui sont en balance, qui ont besoin de prouver qu'ils peuvent rentrer dans une liste pour aller jouer la Coupe du Monde, ce sera intéressant de voir leur comportement sur le terrain. Ils seront peut-être amenés, justement, comme dit Johan, à un peu plus de hargne, d'engagement sur le terrain pour montrer, voilà, je suis là, etc. et gagner une place pour le Qatar. Alors que, normalement, début de saison, bon, on y va, on démarre un petit peu comme un diesel, ouais. quoi, tu vois, mais ça risque peut-être d'être difficile à gérer pour les entraîneurs de club parce qu'il y a des sélectionneurs qui vont faire leur choix.
Bon, on bascule sur le terrain, on va en Bundesliga après deux journées. Il y a que deux équipes qui comptent de succès, le Bayern et Dortmund. Polo, le BVB, alors qui a gagné ce week-end, mais qui a eu du mal contre Fribourg.
Ils ont été dominés, c'est pas compliqué, ils ont été dominés 75 minutes sur les 90. Alors ça fait un peu polémique en Allemagne parce que évidemment donc ce match de vendredi était un match très important, mais aussi pour les deux équipes parce que Fribourg est en Europa League et on sait pas trop ce que ça va donner, surprise de l'année dernière avec cette sixième place. Ils ont fait un recrutement très intéressant et surtout Dortmund avait fait lors de la première journée contre Leverkusen, l'avait emporté 1-0, mais si tu veux le match nul c'était assez facile. Et là, ils sont dominés quasiment de la tête et des épaules par Fribourg pendant quasiment toute la rencontre. Et puis, eh ben, le nouvel international allemand Flecken, néerlandais Flecken, l'année dernière, fait une boulette énorme sur un tir de loin qui permet évidemment l'égalisation. Et d'un seul coup, eh ben, Fribourg s'écroule et Dortmund va chercher la victoire finalement assez facilement parce qu'il emporte 3-1 dans le dernier quart d'heure. Et tu te rends compte finalement en fait que d'un côté, tu peux pas être content de la prestation du Borussia Dortmund par rapport à son effectif, mais que Terzic, il est en train tout simplement de faire comprendre à son équipe qu'on ne doit pas lâcher, et ils sont finalement avec 6 points sur 6, les seuls concurrents aujourd'hui du Bayern Munich, et donc si tu veux, en Allemagne, c'est un peu mi-fig, mi-raisin, on n'est pas content sur le contenu global de la rencontre, mais d'un autre côté, on est bien parti, notamment par rapport aux autres concurrents que sont Leipzig et évidemment Leverkusen. Mais Modeste était titulaire pour sa première, ça n'a pas été terrible. On a peut-être le futur prodige anglais, en tout cas Binoué Gittens, qui est rentré, qui est un game changer, comme on dit maintenant, quelqu'un qui est capable de changer le résultat en une dizaine de minutes, qui est rentré, qui a 18 ans, qui a été assez impressionnant. Moukoko aussi, et donc voilà, donc c'est bien pour le classement. Concernant la prestation du Borussia Dortmund, on va attendre un petit peu, parce qu'il y a vraiment encore des progrès à faire.
Et ils y vont quoi comme l'équipe qui va aller titiller le Bayern ou il l'avoue pas plus que ça finalement Dortmund. Il y a quand même eu du mouvement encore cet été, mais
ouais, il y a eu beaucoup de mouvements cet été. On a beaucoup parlé ces derniers jours sur RMC, mais si tu veux, le problème n'est pas là. Le problème c'est que t'as un club qui est déjà sur une autre planète quoi. C'est-à-dire que Francfort, le Bayern, ils font leur super coupe d'Allemagne, ils éclatent Leipzig, ils font la première journée de championnat contre Francfort qui est en Ligue des Champions, ils leur collent un 6-1 et les autres ils existent pas. C'est-à-dire que là en ce moment, si tu veux, on se pose pas la question si on peut toucher le Bayern, alors qu'avant la saison on se disait ouais ça fait 10 ans que le Bayern gagne, peut-être il va se passer quelque chose, on perd Lewandowski, blablabla. Non, ils sont au-dessus et largement au-dessus. Je veux dire, j'ai fait un petit tour des équipes européennes aussi depuis deux week-ends. Il y a Manchester City qui m'a impressionné, il y a le Bayern qui m'a impressionné, j'ai regardé Chelsea Tottenham, c'était pas mal, mais je trouve qu'ils sont déjà loin de ce qu'est capable de faire Manchester City, je me suis endormi devant Barcelone, Inter c'est pareil, donc si tu veux, on est sur une autre planète pour l'instant. Alors après, est-ce que ça va durer toute la saison, on verra, mais la réalité c'est que dans le jeu, le Bayern est à des années-lumière des autres quoi.
Ouais. Et tiens, et côté Bayern, il y a un gamin qui se détache aussi, c'est Moussiala, je sais que tu voulais en parler aussi.
C'est surtout qu'à 19 ans, si tu veux, on l'attend pas titulaire cette saison. Alors évidemment, Kingsley Coman purger son dernier match de suspension, donc on va voir ce qui va se passer. Sauf que tu te demandes, à la rigueur, entre Thomas Müller et Moussiala, qui doit jouer en tant que numéro 10 de l'équipe, aujourd'hui, c'est le jeune international allemand. Et ça, c'est impressionnant, la façon qu'il a avec sa capacité d'éliminer les joueurs en un contre un, sa capacité dans les petits espaces de trouver toujours des solutions, etc. Et c'est lui, aujourd'hui, le numéro 1, j'ai envie de dire, en Allemagne, toujours confondu, quoi. C'est impressionnant, ouais, son début de saison. Oui, non, mais là, il est au-dessus. Là.
Le Bayern, donc, il s'est imposé Dortmund aussi. Les deux seules équipes, donc, qui comptent deux victoires après deux journées. En Italie, je disais, c'était la reprise de la Serie A ce week-end. Victoire 4-2 de l'AC Milan face à l'Udinese. Milan qui garde son rythme de champion sortant, Johan.
Bon, on les a retrouvés comme on les avait quittés. Super serein, sûr de leur force. Toujours cette qualité de jeu, verticalité beaucoup dans le jeu également. Des individualités au service du collectif, mais qui ressortent aussi quand même pas mal. Je pense encore évidemment à Théo Hernandez et ses fameuses courses sur le côté gauche.
Ça m'éclate. Hein. C'est vrai. L'évolution de Théo Hernandez, qui était un joueur au QI footballistique très bas quand il a quitté l'Atlético, son évolution en Italie. C'est vraiment, l'Italie l'a grandi au niveau connaissance du football.
Ouais,
c'est-à-dire puis, que c'est avant c'était un mec qui faisait que courir.
Je pense qu'il y a un truc aussi qui l'a mis en confiance, c'est que c'est Maldini qui est venu le chercher. Il y a eu une rencontre décisive à Ibiza pendant les vacances d'été et ils s'étaient rencontrés et Hernandez avait dit moi quand il y a Maldini chelou, qui vient contexte, me parler. Ça me fait quelque chose, ça me parle à mon poste. Évidemment, c'est une référence énorme. Donc, il avait été très vite mis en confiance. Il s'est très bien inséré dans cette équipe-là. En fait, il est à l'image de plein de joueurs qui sont arrivés moins forts que ce qu'ils sont maintenant. Je pense à Pierre Kaloulou, je pense à Tomori, je pense à Théo Hernandez, je pense à Bennacer qui a fait une bonne saison à Empoli, mais qui était moins fort qu'aujourd'hui. Ils ont tous progressé avec Pioli. Et ce qu'on voit là encore, c'est une équipe qui, malgré le résultat de 4-2, où l'Odinese revient deux fois, enfin, ouvre le score et ensuite revient à 2-2, tu te dis, si tu regardes la feuille de match comme ça, ça a peut-être été un peu serré et tout. Ça n'a pas du tout été serré. L'ouverture du score, c'est sur un corner, une tête au premier poteau, où tu te dis, au bout d'une minute, peut-être une erreur d'inattention. Et attention, en match de préparation, Milan prenait beaucoup de buts dans les 5-10 premières minutes, donc il va falloir faire attention et corriger ça. Le deuxième but de l'Udinese, c'est une erreur totalement d'inattention d'un joueur au marquage. Donc voilà, c'est des erreurs individuelles, c'est pas des erreurs de système où l'Udinese qui a mis vraiment en difficulté Milan. Non, ils sont vraiment largement au-dessus. Et en plus, sur ce match-là, il manque quand même Olivier Giroud, donc ils n'ont pas leur neuf titulaire, même si Rebic a été bon. Ils n'ont pas Tonali, meilleur milieu de terrain de l'AC Milan la saison dernière. Et il leur manquait également, il me manque évidemment un joueur. Il y avait De Ketelaere, qui l'a recrue quand même de l'été, et qui lui était sur le banc et en rentrée en fin de rencontre. Donc quand tu vois cette qualité de jeu, cette force de frappe offensive, avec des individualités qui recommencent très très fort, je pense à Théo, je pense à Kaloulou qui fait un match monstrueux. Il y a un modèle pour les défenseurs. S'il y a des jeunes défenseurs qui nous écoutent, allez regarder le résumé du match. Ce sera certainement dans le résumé du match ou regardez le match en entier. Et à un moment donné, il y a Kaloulou qui est seul sur une transition 2 contre 1. Il est au milieu des deux joueurs. Il se met parfaitement sur la ligne de passe entre les deux joueurs de l'Udinese. Donc, il bloque une option totalement. Et à la fin, il y a un dynamisme total pour plonger
le porteur du ballon.
Voilà, pour plonger dans les pieds du porteur de balle et contre la tentative du porteur de balle. Et c'est vraiment un modèle là-dessus. Il a été excellent en pré-saison. Et donc, on se dit, avec quelques recrues qui sont bien intégrées, je pense à Yacine Adli qui a fait une bonne pré-saison aussi, des recrues qui devraient encore arriver, même si ce ne sera pas des joueurs confirmés. À ce Milan-là, mine de rien, il y a du banc, il y a un bel effectif, il y a du jeu. Ils ont maintenant en plus cette confiance en eux parce qu'ils ont gagné le Scudetto et c'est quand même pas rien. Ça déclenche des choses aussi mentalement. Ça va être encore une belle équipe.
Et ça, c'est très excitant aussi pour le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. On vous rappelle, c'est le 25 août, hein, donc c'est très bientôt. Ce sera à suivre également sur RMC.
Tu me permets, j'ai vu quelque chose dans ce match qui m'a fait plaisir, qui m'a étonné. C'est l'hommage à William Vecchi. Qui n'était que préparateur des gardiens.
Ouais.
C'est un monsieur que j'ai connu quand il était à Madrid, puisqu'il était dans le staff de Carlo. J'ai même passé un nouvel an avec lui, pour vous dire, c'est un monsieur très gentil qui a été un gardien important en Italie. Je ne savais pas, quand je l'ai connu, je ne savais pas qu'il avait été important en Italie. Et ça m'a surpris et agréablement surpris de voir comment un club était capable de rendre un hommage aussi sincère, aussi important. Un simple préparateur de gardien. Donc, si tu peux nous en dire un petit mot, parce que ça, ce qu'il est décédé
vite,
il y a quelques jours.
Il va falloir qu'on y aille. Vas-y.
Ouais. Oui, je fais très rapide. Je suis pas spécialement étonné parce que c'est vraiment dans la culture italienne aussi. C'est quelqu'un qui a été important, qui a connu les grandes heures de Milan, et forcément, ça marque toujours un petit peu plus que quand c'est les
années. Mais en tant que préparateur des gardiens.
Bien sûr, c'était qu'un membre du staff entre guillemets.
Il n'était pas très vraiment mis en avant.
Non, bien sûr. Mais ça fait partie des personnes historiques qui ont mené Milan au sommet de l'Europe pendant des années et des années. Et je pense très sincèrement que Milan est le prototype de club qui sait ce qu'a été son passé.
Je pense que c'est
très peu étonnant, mais il y a d'autres clubs. Hein. Je dis Milan, mais en Italie, je pense que l'Inter et la Juve seraient tout à fait capables de faire la même chose. Mais effectivement, c'était émouvant. J'ai pas été spécialement surpris parce qu'il y avait aussi des messages au moment de l'annonce de son décès sur les réseaux sociaux. Ils ont beaucoup communiqué là-dessus, des rétrospectives, etc., publiées sur les canaux officiels, etc. Donc, c'était effectivement un très beau moment et ça montre aussi que pour voir le futur, il faut aussi se souvenir de son avenir.
L'anecdote sur Casillas, c'est Diego Lopez, l'a dit, de William Vecchi après la pub.
Ouais, on la dira juste après la pub. On revient dans quelques instants avec les drôles de dames et Fred va également nous expliquer la stratégie économique du Barça, parce qu'ils s'en sont passés des choses
cette année.
Et c'est pas fini, c'est ça le problème. À tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie des Drôles de Dames, 20h32, vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit. Les Drôles de Dames qui seront là tous les lundis maintenant, de 20h à 22h. Tiens, juste avant que qu'on parle du Barça, Manfredo, tu avais une anecdote à nous raconter sur la cohabitation.
Voilà, ouais. Non, Vian Vicky, qui vient de décéder, pour ceux qui nous prennent en route, et il y a eu un très bel hommage à Milan, préparateur des gardiens, qui était préparateur des gardiens de Carlo Ancelotti dans le staff, lors de la première époque de Carlo Ancelotti au Real. Et donc Vilain Vecchi, à l'époque, il y a la concurrence entre Casillas et Diego Lopez. Et Vilain Vecchi fait un rapport au club sur ce qu'il pense des deux gardiens, quoi. Et en fait, j'ai eu accès à ces rapports. Et en fait, pour résumer, c'était techniquement, Diego Lopez est excellent. Il est au-dessus de Casillas, mais Casillas est supérieur à lui parce que Casillas écrit textuellement, il a de la chance.
C'est bon ça.
Et ça, vous imaginez.
Tu connais les expected chances ou pas, toi?
Ouais, mais je peux.
Ça, tu peux trouver ça dessus, ouais. Avec Moreau, va le trouver un truc.
Non, mais ça, parce qu'en plus, Vilain Vecchi avait été gardien. Donc, il savait parfaitement le truc. Donc, aujourd'hui, la chance chez un gardien, ça compte au moment de choisir entre l'un ou l'autre. Bah, voilà.
Reprise de la Liga ce week-end. On va parler du Barça, alors, en revanche, pas du Real, qui a fait 0-0 contre le Rayo Vallecano. Ça a été un peu compliqué. C'est compliqué également en coulisses aussi. Juste avant de parler, que tu nous parles de la stratégie financière du Barça, un mot sur deux Barcelonais qui ont beaucoup fait parler ces dernières semaines, ouais. De Jong et Lewandowski.
Alors, je vais commencer par Lewandowski, et là, j'aimerais avoir l'avis de l'ami Polo. C'est un super coup réussi par le Barça d'avoir Lewandowski. Hein. Le mec, il rêvait d'aller au Real, il va au Barça, il n'a pas coûté trop cher, on sait qu'il va marquer beaucoup de buts, mais il y a quelque chose qui... Voilà, Lewandowski, il a eu du mal dans ce match, comme tout le Barça. Lewandowski, il découvre un nouveau championnat, une nouvelle équipe, qui est en reconstruction quand même. Il découvre un nouveau championnat, où, je vais peut-être faire hurler Polo, mais les défenses sont quand même meilleures. Qu'en Allemagne. En tout cas, il y a quand même plus d'entraîneurs qui veulent construire à partir de la défense, ou en tout cas qui considèrent que la défense est importante. Et donc, je ne serais pas étonné de voir que Lewandowski va avoir du mal pendant quelques semaines. Parce que tout Lewandowski qu'il est, toujours exceptionnel qu'il est, il va devoir s'habituer à un nouveau championnat. Je ne sais pas ce qu'en pense Polo, et si pour lui, ça risque d'être difficile ou pas.
Je te laisse la propriété de tes propos concernant le fait qu'un joueur de 34 ans qui coûte presque 50 millions, ça c'est une bonne affaire, mais ça c'est surtout quand on voit les comptes du Barça. Ça, je pense que le Bayern est très très content d'avoir lâché un mec qu'ils avaient eu gratos à ce prix-là, à 34 ans.
Mais le Barça est très content d'avoir un mec qui va te marquer des buts que ceux de l'an dernier.
Je ne l'ai pas vu ce week-end. Il est en retard sur quasiment toutes les actions, etc. Ça. Mais c'est pas grave. De toute façon, Lewandowski, il est déjà oublié au Bayern. Je rappelle que ils ont marqué 11 buts en deux rencontres, deux premières rencontres, et Lewandowski, comme le disait très bien, je ne sais plus c'est qui dire ou quoi, une légende est partie sans émotion. Il a voulu se barrer, il s'est barré, le Bayern a reçu un gros chèque, merci, au revoir. C'est son choix, c'est pas problématique.
Et sur sa capacité d'adaptation, parce que c'est là maintenant, les gens vont vite s'impatienter, alors moi je pense qu'il lui faudra quelques semaines quand même, ce qui est tout à fait normal.
Moi je vais voir le Bayern, le Barça de ce week-end, moi m'a pas impressionné.
Ah non.
Je sais pas si c'est Lewandowski le problème ou l'ensemble de l'équipe ou si.
Ah non, c'est pas le problème, mais le mauvais fonctionnement de l'équipe fait que Lewandowski a pas eu forcément beaucoup d'occasions.
Après en Ligue des Champions, il a affronté des équipes espagnoles, anglaises, italiennes.
Il a marqué top 2, moi j'attends le Barça, si tu veux. J'entends que tout le monde dit que le Barça est à nouveau une équipe compétitive, ils ont réussi à acheter tel joueur, etc. Moi je suis comme en Allemagne, au lieu de parler du Barça, avant de parler du Barça. C'est-à-dire que la situation actuelle de Barcelone, elle fait beaucoup rigoler en Allemagne parce qu'elle était prévue, en fait. C'est-à-dire, il suffit de se connaître un petit peu en finance pour voir que c'est pas possible lorsque, notamment quand t'as un modèle associatif, c'est-à-dire que tu dois générer ton propre argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec qui arrive,
il n'y a pas un ange qui arrive
en disant, tiens, c'est pas Abramovich avec Chelsea, tu vois.
On va en parler tout de suite. Déjà, on rappelle juste pour contextualiser par rapport à ce match face au Rayo, Koundé, par exemple, le français qui est arrivé, il n'a pas pu jouer, il n'a pas pu être inscrit parce que la masse salariale du Barça est trop élevée.
Pourquoi ? Parce qu'il y a des règles extrêmement dures en Liga, de plafond.
Exactement.
Non, mais c'est pour ça, parce que Koundé, il joue en France, il peut être inscrit sans aucun problème.
Le Barça qui a plus d'un milliard de dettes à éponger. Alors, vas-y, tu voulais nous décrypter la stratégie financière du club catalan, alors qui a procédé à pas mal d'opérations financières d'ailleurs au cours de l'été.
Je connais ça, les leviers, la Spalancas. Donc il y a beaucoup de blagues en Espagne sur ça. Finalement, c'est pas tellement la dette qui est gênante là. C'est le fait d'avoir du cash maintenant. T'as du cash à dépenser, parce que la dette, en plus, elle était renégociée, ils ont racheté une partie de leur dette. Ouais. voilà, bref, avec 500 millions qui sont arrivés d'une banque américaine. Donc ça, le, alors il faut expliquer une chose. Et Polo a commencé à l'expliquer. Si le Barça avait été un club non associatif, c'est-à-dire un club,
une société anonyme sportive,
société anonyme sportive avec un propriétaire, le Barça, simplement, il suffisait que le propriétaire mette du fric, comme il a pu le faire plus financier en plus, mette du fric. Et c'est, le problème était réglé. C'est tout simplement, hein, tu vois, c'est un Glazer, un je sais pas qui, un Qatar, un Émirat, ils auraient mis
alors
l'argent.
Alors même si tu peux avoir des contrôles sur la masse salariale, tu dois pas dépasser un pourcentage du budget.
Non, bien sûr. Parce que ça, c'est avec l'Espagne. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de faire plus financier européen. Donc ils auraient pu rajouter de l'argent. Comme c'est associatif, cet argent, il peut pas venir artificiellement. Donc le Barça doit générer son propre argent. C'est le cas en Espagne de quatre clubs, je le rappelle. Le Real, l'Athletic Club des Bilbao, le Barça et Osasuna. Donc, le Barça a dû inventer des choses pour avoir de l'argent, pour avoir beaucoup d'argent. Le premier, ça a été de renégocier sa dette, c'est-à-dire de racheter sa dette avec, avec un nouveau prêt.
Ça, ouais, 600 millions Goldman Sachs,
voilà, Goldman Sachs, la fameuse banque américaine. Donc, en gros, tu dois rembourser ton prêt, et ben tu fais un autre prêt, tu payes ton prêt, mais t'as un autre créancier, en fait.
Ouais.
Ça, c'est facile à comprendre, je pense que je me suis bien expliqué, c'est assez facile à comprendre. Ensuite, le Barça a fait ce que font beaucoup de championnats européens, c'est-à-dire d'hypothéquer ses droits.
Ouais. Les droits télé, ouais.
Les droits télé. C'est-à-dire que le Barça est en train de vendre son avenir. Pour avoir du cash maintenant, ben, il hypothèque l'argent qu'il va gagner dans les années qui viennent.
Alors, juste pour être très précis, ils ont vendu 25% des droits télé sur 25 ans à un fonds d'investissement pour 207 millions d'euros, voilà. Plus 15% encore à ce même fonds pour plus de 300 millions d'euros.
Voilà. Donc ça fait beaucoup de cash.
Ouais.
C'est-à-dire
ça
que
fait déjà quasiment la moitié.
En gros, le Barça va recevoir moins d'argent dans l'avenir.
Ouais.
Parce que c'est de l'argent qu'ils viennent de recevoir tout de suite.
Ils vendent par anticipation.
Ensuite, il y a ce truc de cette image de cette société que possède le FC Barcelone, qui exploite des vidéos, qui exploite les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire, on est plus dans, en gros, c'est un peu des
Barça Studios.
Barça Studios, ouais, c'est une société qui
c'est du divertissement. C'est
ouais, voilà. Après, par exemple, un jeu vidéo créé avec les joueurs du Barça, etc. Donc là, il y a deux sociétés qui ont acheté, dont Mediapro, enfin une société du groupe Mediapro, qui est de Jaume Arruès, qui a mis 100 millions sur la table pour acheter ça. Tout ça pour dire que oui, Mediapro a toujours de l'argent, a toujours eu de l'argent. Après, ils n'ont pas voulu dépenser en France, ça c'est autre chose, mais Mediapro a beaucoup d'argent. Ce qu'a fait le Barça est totalement légal. C'est-à-dire que personne ne peut dire que le Barça n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, pourquoi le Barça peut faire ça? Parce que le Barça vaut de l'argent. Parce que le Barça est un club qui va rapporter de l'argent. Si des types mettent de l'argent pour des droits sur 25 ans, c'est parce qu'ils savent que pendant 25 ans, le Barça va générer de l'argent, que le Barça sera toujours en Ligue des Champions.
Attention, ça c'est de l'anticipation. Ouais, et on a bien vu qu'à n'importe quelle crise, qu'elle soit sanitaire, environnementale,
j'arrive
financière, etc., peut proposer des
problèmes. J'arrive là-dessus. C'est ce que j'allais dire, il ne faut pas un nouveau Covid. Voilà, on est d'accord.
Donc,
je termine parce qu'il y a plein de choses. En France, il y a plein de conneries qui ont été dites. Donc j'explique bien les choses parce que nos auditeurs veulent savoir. Voilà, ils veulent savoir exactement, veulent comprendre. Attends, je termine. Donc en fait, le Barça a hypothéqué son avenir, des revenus dedans plusieurs années pour financer dès maintenant, mais d'y financer beaucoup. Parce qu'on pourrait dire que le Barça, finalement, n'aurait pas eu besoin d'activer tous ses leviers s'il avait moins recruté, par exemple. Mais non, le Barça a fait ça aussi pour recruter beaucoup, pour avoir une équipe très compétitive. C'est légal, mais c'est dangereux. C'est dangereux parce que on ne sait pas une nouvelle crise du Covid, et là, le Barça n'aurait plus de valeur.
Covid ou financière ou
financière.
Parce que catastrophe.
Oui, parce que là, tu hypothèques ton avenir sur 25 ans.
Ouais. Vas-y, Polo, tu voulais réagir.
Bon, il y a plusieurs choses. Déjà, cette semaine, on a fait un débat, je pense, assez intéressant sur le rôle des socios au FC Barcelone. Moi, je ne critique pas le FC Barcelone. J'ai critiqué le fait que les socios, on avait l'impression qu'ils découvraient la Lune. Le milliard d'euros de l'endettement du FC Barcelone, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de beaucoup plus longtemps. Les problèmes de trésorerie du FC Barcelone, ça date pas d'aujourd'hui, ça date depuis longtemps.
Ouais, c'est surtout
et quand je dis ça, je rappelle que les comptes du Barça sont visés par des commissaires aux comptes. Normalement, les commissaires aux comptes, ils doivent dire « Oh, attention, il y a peut-être un petit problème au bout d'un moment, les gars. » Donc, il faut se rendre compte de ça. Et la troisième chose, moi, qui me semblait importante, c'est pourquoi est-ce que le Barça en arrive dans cette situation? On dit jamais, mais pourquoi? Parce qu'on est dans une course aujourd'hui à la compétitivité européenne, évidemment, menée évidemment par les grands clubs anglais qui bénéficient encore une fois d'un modèle différent de celui du Barcelone ou de la plupart des clubs allemands.
Parce que ce sont des entreprises avec des gens qui mettent beaucoup d'argent.
Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Chelsea pourrait, avec 500 millions de chiffre d'affaires en année 2021, donc l'année de leur Ligue des Champions, c'est quasiment deux fois moins que le Barça en chiffre d'affaires généré, mais ils ont 1,5 milliard de dettes qui peut être effacée ou qui aurait pu être effacée à l'époque par l'ancien propriétaire Abramovich. Cette année-là, si je me rappelle bien, Chelsea avait perdu 145 millions d'euros. Donc lorsqu'on parle d'équité dans les compétitions, ça me fait toujours rigoler. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Donc, parce que l'UEFA ne fait rien, parce qu'on est aussi dans une...
Puis déjà, les impôts ne sont pas les mêmes.
Exactement. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'idéologie actuelle. Le patron a forcément raison, etc. On peut faire ce qu'on veut avec le pognon. Voilà. Mais ça, c'est important. Mais ce qui est important, c'est de savoir pourquoi est-ce que le Barça arrive à cette situation. C'est-à-dire que c'est que la logique de compétitivité de rester dans le top 8 européen, même dans le top 4 européen du Barça, comme le Real, comme le Bayern, les clubs anglais, la Juve ou d'autres, c'est, on est forcé de, on peut mettre en danger le club. Et notamment quand tu as un modèle associatif. C'est ça qui s'est passé. Ça s'appelle l'accroissement par l'endettement. C'est très dangereux. La croissance par l'endettement, c'est très dangereux au bout d'un moment, parce que c'est là où je suis pas d'accord avec Fred. Quand il dit c'est pas grave, ce milliard 3 de...
Parce qu'à un moment, j'ai pas dit que c'est pas grave.
La
dette, ça veut rien
dire.
C'est-à-dire que la dette, ne veut rien dire.
Il y a un moment où ton bilan et ton compte de résultat, ça devient trop lourd.
Ton endettement par rapport à tes revenus, en fait. Parce que voilà, parce que c'est 1,3 milliard pour le Barça, c'est pas la même chose que 1,3 milliard pour le RC Lens, mon club. Tu vois ce que je veux dire? Parce
mais
que le Barça,
mais ça lance. Écoute, on a fait un pataquès sur Schalke l'année dernière. Ils sont endettés à 100% de leur chiffre d'affaires. Toi, qui es quasiment le double.
Ah oui,
donc, ne dis pas que c'est pas, compliqué. La preuve, c'est que t'as des problèmes de trésorerie. Parce qu'il faut les rembourser au bout d'un moment.
Il y a des problèmes de trésorerie parce qu'il y a eu le Covid. En fait, le Barça vivait au-dessus de ses moyens, dépensait beaucoup.
Il vit au-dessus de ses moyens depuis des années. Ta masse salariale, c'est 65% de ton chiffre d'affaires. Tu peux pas gagner de l'oseille comme ça. Il y a un moment. Donc, il y a les écritures comptables, il y a tout ce qu'on veut, le fait que tu achètes un joueur 20 millions, ou tu en as un zéro, puis d'un seul coup, tu le vends 50 millions, mais t'achètes trois joueurs à 150 millions, mais comme tu peux les provisionner sur 4 ans.
L'argent, les 220 millions de la vente de Neymar au PSG, a été dépensé n'importe comment.
Mais bien sûr,
juste 10 secondes, c'est pour ça que quand on parle de la, Campolo, tu parlais de la compétitivité et de la course à la compétitivité. Je suis d'accord sur l'esprit. Le problème, c'est que ça s'applique pas au Barça. Le Barça, c'est pas une course à la compétitivité. C'est qu'ils ont dépensé n'importe comment. La gestion sportive a été catastrophique.
C'est pas compétitif
de filer 20 millions d'euros nets à Umtiti par saison.
Compte tenu de leur situation financière, ils auraient pu, prendre une autre décision plutôt que de
se dire,
ultra compétitive.
Oui, mais au lieu d'activer les 5 leviers, on activait 2.
Voilà. Et de se dire, on va peut-être pas prendre Lewandowski, on va faire jouer les jeunes et pas, c'est-à-dire que là, comme disait Fredo et comme le dit d'ailleurs aussi Polo, c'est-à-dire que là, tu prends quand même un risque sur l'avenir.
Mais ça, je le conçois.
Donc, une garantie.
En fait, c'est en Europa League. Attends, mais tu comprends, pour le Barça, ils ont été éliminés de l'Europa League. Non, mais ils étaient même plus en Ligue des Champions. Donc, le Barça veut une équipe pour moi passer la phase de poule.
Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une équipe qui va de temps en temps aller en Europa League et qui va connaître 3 saisons sans gagner de trophée, ou avoir une équipe qui fait un jeu très dangereux pour l'avenir sur les 20 prochaines saisons.
C'est qui le Lille?
Non, mais c'est le président et les socios qui acceptent.
Et les socios, sont responsables.
Alors, je vais expliquer un truc simplement. Le Barça ne disparaîtrait pas si ça s'écroule. Mais il disparaîtrait comme associatif. C'est-à-dire qu'à un moment, si ce modèle-ci, il y a une nouvelle crise financière, sanitaire, etc., et que le Barça est encore plus endetté parce qu'il n'y a plus ses rentrées d'argent, etc., c'est le Barça, en tant qu'entité de club, ne disparaîtrait pas, mais disparaîtrait.
Si quelqu'un veut racheter,
il disparaîtrait.
Tu peux très bien avoir un dépôt de bilan,
ils n'existent plus.
Oui, mais donc dans ce cas-là, tu recrées un club.
Non, tu recrées pas un club.
Normalement, dans les statuts d'une association, les socios votent l'entrée d'un, le changement de statut pour une société d'administration sportive, la cohabitation avec l'association et l'entrée au capital d'investisseurs extérieurs.
Sauf que les socios, eux, le but de Morata. C'est pas mal, le deuxième but de Morata.
2-0 face à Rennes à l'heure de jeu.
Non, mais c'est-à-dire que le caractère associatif du club disparaîtrait et le Barça deviendrait comme n'importe quel autre club en Europe, c'est-à-dire une société anonyme.
On y va, les gars, on revient dans quelques instants avec les drôles de dames. On poursuit les débats dans quelques instants. On va parler d'un autre club en crise sportive cette fois-ci. C'est Manchester United. On évoque ça avec Julien Laurence juste après ça.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
20h51, vous êtes sur RMC avec les drôles de dames. On est ensemble jusqu'à 22h. L'after qui se poursuivra jusqu'à minuit. À partir de 22h, Gilbert Bribois sera là avec Thibault Leplat et Walid Acharchour. On parlait de la crise du Barça, la crise économique notamment. On va parler de la crise de Manchester United après deux journées de PL. Le dernier au classement est Manchester United. Juste avant ça, j'ai oublié Christophe Lécuyer qui est au stade Robert Diochon, affiche de Ligue 2 entre Quevilly-Rouen et Saint-Etienne. Salut Christophe.
Salut Nico, bonsoir à tous.
Comment puis-je oublier Quevilly-Rouen face à Saint-Etienne? Ça va ou quoi Christophe?
Eh bien écoute, ça va super, d'autant qu'il y a une top ambiance ce soir au stade Robert Diochon. Le match se joue à guichet fermé, un petit peu plus de 8300 supporters qui assistent à cette affiche. Donc 400 Stéphanois, 0-0 après un petit peu plus de 7 minutes de jeu. Un match qui oppose effectivement deux équipes au début de saison relativement moyen, et notamment Saint-Etienne, car vous savez que le problème chez les Verts, eh bien, c'est que on accuse encore pour l'instant un bilan comptable négatif au classement, moins 2 points. Il faut impérativement engranger cette première victoire qui lancera véritablement notre saison. C'est ce qu'a dit en conférence de presse d'avant-match Laurent Batless. 8 minutes de jeu donc ici sur la pelouse parfaite du stade Robert Diochon, 0-0 entre QRM et Saint-Etienne.
Merci beaucoup Christophe. Et je disais donc, deux journées de PL, le dernier au classement, bah c'est Manchester United. Défaite 4-0 ce week-end face à Brentford. Julien Laurence, alors il y a les défaites, il y a les cas Ronaldo, Maguire, De Gea, ça part dans tous les sens hein, à United.
Ouais, c'est vrai que c'est très très chaud. On avait parlé déjà la semaine dernière après la défaite contre Brighton à domicile qui avait été très compliqué, défaite 2-1, où on avait expliqué déjà les faiblesses de cette équipe-là, les problèmes, que ce soit psychologique, mais aussi tactique et physique. Là, on est passé à un autre niveau. Là, samedi, c'était du pathétique. C'était vraiment un cauchemar absolu, la première période, puisqu'ils sont menés 4-0 à la 37e minute, où ils ont vraiment fait n'importe quoi du début à la fin. Alors, encore une fois, on l'avait déjà dit la semaine dernière, mais Ten Hag a fait des choses fantastiques avec l'Ajax. Là, il fait quand même n'importe quoi. Cette fois, il a mis donc la semaine dernière, il nous avait mis contre Brighton Christian Eriksen en faux numéro 9, en nous expliquant qu'il avait déjà joué à ce poste-là il y a quelques années. Là, il l'a mis en sentinelle devant la défense en numéro 6. Alors, je comprends, parce que c'est sûrement le meilleur joueur de ballon qu'il a au milieu de terrain. Sauf que il a été mis sous pression du début à la fin par les milieux de terrain de Brentford, qu'il a perdu des ballons, notamment sur le deuxième but qui coûte un but directement, qu'il a jamais pu finalement jouer, se mettre dans le sens du jeu, trouver des solutions, être dans le bon tempo, et ils l'ont payé très très cher. De Gea a fait n'importe quoi et grosse boulette sur le premier but, mais après aussi dans son jeu au pied. Maguire, n'en parlons pas, de toute façon il était nul avant, il est toujours aussi nul. Il y a pas de raison qu'un entraîneur comme Ten Hag le transforme en un joueur super talentueux. Il y a beaucoup de joueurs dans l'effectif qui comprennent pas comment Maguire peut être encore titulaire et capitaine. N'oublions pas quand même qu'avant le match contre Brighton, dans le tunnel, avant d'entrer sur le terrain, il s'est mis du mauvais côté.
Ah ouais, ça, j'avais vu,
c'est quand même incroyable. Ah ouais, même le placement, on n'arrive pas là, quoi.
Mais à un moment, on arrive quand même à des trucs qui sont incroyables. Donc, c'est vrai que même si Ten Hag fait des erreurs, il en a fait, et je pense qu'il en fera encore, au niveau de son effectif et des joueurs qu'il a sous la main, il est quand même pas aidé non plus, faut le reconnaître. Il y a une stat qui était assez flagrante finalement dans la rencontre, même si, Il faut la relativiser un tout petit peu, parce que United a eu beaucoup le ballon dans cette rencontre contre Brentford, et Brentford a été très bon dans ce qu'ils ont fait, notamment dans le pressing et pour les mettre sous pression. Mais United a couru, donc les 11 titulaires de Manchester United ont couru 13,8 km de moins que les 11 titulaires de Brentford. À ce niveau-là, 13,8 km, ah ouais, c'est énorme.
Surtout dans le c'est un joueur de plus en fait.
Voilà, exactement.
Il y a un bon joueur.
Même un joueur et demi, presque. Ouais, parce qu'un joueur à 13 km, c'est pas
Mais c'est justement ça. Julien, enfin, moi, j'ai regardé pareil la première mi-temps. J'étais estomaqué par la prestation de Manu. Puis, tu le rappelles, quoi. C'est Brentford en face, quoi. Tu vois, c'est pas Tottenham, c'est pas Chelsea. Comment on en parle en Angleterre? C'est parce que moi, en général, quand une équipe se prend 4-0 en 35 minutes, c'est qu'on veut plus du coach. C'est un grand classique, hein. Que les joueurs ne courent pas. Donc ça, c'est soit la préparation physique qui a été ratée, soit les joueurs tout simplement qui ne veulent pas courir. Ça, on l'oublie un petit peu, mais ça fait partie des choses aussi. Comment c'est vécu en Angleterre? C'est quoi? C'est une bande de copains, entre guillemets, joueurs très bien payés à Manchester, qu'on n'a rien à faire de l'histoire du club, qui disent de toute façon, tant que je suis là, et j'inclus dedans évidemment Ronaldo, hein, parce que on a parlé de Lewandowski qui a forcé son départ du Bayern, mais enfin bon, Ronaldo à Manchester United, c'est un peu la même chose. Les joueurs qu'on peut dire moyens, etc., il y en a quand même certains qui ont un petit palmarès ou un petit CV. Mais De Gea, il n'est pas devenu mauvais comme ça du jour au lendemain.
Il est mauvais depuis très longtemps.
Ouais, mais il fait partie de la galaxie des gardiens qui ont leur carrière, quoi. Et donc, c'est vu comment en Angleterre? Parce que sans prendre Athènes Hague, dont moi je me méfie toujours du passage de l'Ajax à d'autres clubs européens, c'est pas forcément toujours des grandes réussites. Est-ce que c'est lui vraiment le fautif, ou alors c'est le mal est fondamentalement profond, c'est-à-dire que le club est vérolé tout simplement?
Ouais, un peu de tout ça, mon Polo, un peu de tout ça. Donc je pense que lui n'avait pas mesuré l'ampleur de la tâche au moment où il est arrivé, et puis ça a été masqué finalement par une bonne préparation d'avant-saison. Ils ont été très bons dans les matchs amicaux, ça jouait bien. Alors là on me dit que Anthony Martial, la blessure de Martial, ça a été un coup dur parce que avec lui ça aurait été mieux. Bon, d'accord, j'attends de voir. Okay. Mais peut-être hein, je sais pas. Donc je pense que lui est en train de se rendre compte de, encore une fois, l'ampleur de la tâche, et en plus il fait des erreurs, donc c'est assez compliqué. Le club, quoi, c'est pas nouveau non plus hein, mais le club c'est quand même un bordel assez monstrueux du haut vers le bas, et je pense qu'il faudra plus qu'un changement de propriétaire. Aujourd'hui les supporters, encore une fois, on veut aux Glazers, on veut à la famille Glazer, ils veulent que les Glazers vendent le club, tout ça. Je veux bien, je pense que tu peux mettre n'importe qui comme propriétaire, même le meilleur propriétaire de l'histoire du football, et ce sera quand même un bordel monstrueux, parce qu'il faudra des années pour reconstruire un club qui fonctionne de la bonne façon, de la bonne manière. Et puis après, il y a les joueurs. Il y a Cristiano, bien sûr, qui est un problème, parce que tu veuilles pas le vendre. D'accord, je veux bien. Mais à partir du moment où il veut vraiment partir, il mange à la cantine tout seul, il s'est isolé du groupe. On a vu l'attitude après la rencontre, quand Steve McLaren, l'entraîneur adjoint, lui demande d'aller applaudir les supporters de United qui ont fait le déplacement. Il y va pas. Il passe devant Ten Hag sans même lui jeter un regard. Il rentre au vestiaire indirectement. Il est pas heureux d'être là. C'est pas qu'il est pas heureux, il veut pas être là. Donc à la base, je vois pas comment il pourrait être heureux quand il veut pas être là. Donc c'est un problème. Lisandro Martinez, c'est un très bon joueur de ballon, c'est un super joueur de foot. Il a fait des très bonnes choses encore une fois à l'Ajax, mais là il a du mal dans les duels. On l'a vu sur le troisième but de Brentford, de Ben Mee, où je sais pas ce qu'il fait, il saute même pas, il est sur ça. Enfin, j'ai pas trop compris comment il défendait. À un moment, ils ont, même avec les nouvelles recrues qu'ils sont allés chercher, sur lesquelles ils ont dépensé beaucoup d'argent, aujourd'hui c'est pas au niveau non plus, pour l'instant en tout cas. Donc c'est vrai qu'il y a rien qui va. Et le prochain match, Liverpool à domicile.
Ouais, en plus ouais, ça va être Liverpool. On poursuit le débat hein, dans quelques instants. On file au stade Robert Diochon, retrouver Christophe Lécuyer. Premier but entre Quevilly-Rouen et Saint-Etienne. Et les Verts, pas mieux Christophe.
Alors, l'ouverture du score pour QRM ici effectivement au stade Robert Diochon, avec un magnifique travail au départ d'Issa Soumaré qui a mis la panique à lui tout seul dans la défense stéphanoise. Il y a pourtant eu un premier arrêt magnifique d'Etienne Green, mais il est battu, le gardien stéphanois, sur la reprise de Boykan qui ouvre le score. À Yann Boykan qui permet donc ici, après 14 minutes de jeu, à Diochon, à QRM, de mener face à la Saint-Etienne sur le score d'un but à zéro.
Merci Christophe. Les Verts n'ont toujours pas gagné en Ligue 2 cette saison, qui sont menés face à Quevilly-Rouen. On vient dans un instant avec les drôles de On poursuit le débat sur Manchester United, la crise qui se poursuit, et un certain Adrien Rabiot qui pourrait débarquer du côté d'Old Trafford. On en parle juste après ça.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.